Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Fellini, La Dolce Vita, 8,5, Jacques Demy, Lola, Lelouch, Un homme et une femme, et bien d'autres films encore qui mériteraient d'être cités, avec Duvivier, Becker, Franju, Lumette, Cucor, Dessica, La Chouada, avec Aldrich, Bertolucci, Varda, avec Altman et d'autres. Avec Marco Bellocchio pour Le saut dans le vide, avec à la clé un prix d'interprétation à Cannes en 1980. En la parcourant, on se dit que la filmographie de Anouk Aimée a de quoi faire pâlir de jalousie plus d'une actrice et même plus d'un acteur. Dans le premier des deux numéros de Hors Champ que lui consacrait Laure Adler en 2014, Anouk Aimée avouait pourtant n'avoir jamais cherché à construire sa carrière de comédienne. Un métier dans lequel elle avait débuté très jeune et par hasard, et qu'elle considérait n'avoir épousé pleinement qu'à partir de sa rencontre avec Fellini. Dans cette émission, en évoquant ses premiers pas dans le cinéma avec le film de Henri Calef, La maison sous la mer, au temps où elle n'était encore que Anouk tout court, et en revenant sur quelques-uns des moments les plus marquants et certaines des plus belles rencontres de sa vie d'actrice, Anouk Aimée nous disait au fond combien elle avait été gâtée. Du bonheur de son histoire de comédienne, l'auteur caché aurait-il été le poète qui offrit un jour aux 15 ans d'Anouk le patronyme Aimé. Peut-être bien, après tout, puisqu'on ne sait jamais avec les poètes. Hors champ, Anouk Aimé, première des deux émissions, diffusée le 22 mai 2014 sur France Culture.
Hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir avec Anouk Aimée. Quelle joie d'être avec vous, Anouk Aimée, et vous êtes comme dans vos films.
Oh, c'est-à-dire.
Donc ça, ben pareil, vous n'avez pas changé, vous n'avez pas vieilli, vous gardez ce sourire un peu mystérieux.
Oh merci, je ne sais plus quoi dire là, merci beaucoup.
Un peu comme ça, moqueur.
Oui, il faut un peu, hein. Sinon, si on sourit, il faut être un peu moqueuse ou moqueur, hein, parce que ce n'est pas possible aujourd'hui de pas rire un peu. Si on n'a pas d'humour, c'est fini aujourd'hui. Hein.
Non ? Oui, mais je ne sais pas ce que les cinéastes ont volé de vous à l'intérieur de votre propre tempérament. Par exemple, quand on revoit Lola de Demy, on se dit que cette Lola, qui est vachement courageuse, elle passe aussi sans arrêt du coq à l'âne, elle est un peu comme ça dans les nuages. Est-ce que c'est un trait de votre caractère ?
Un peu. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu ça. Jacques avait dit, c'est vrai que je vais dire comme ça, d'une chose à l'autre, et il l'a utilisé, oui, un peu, c'est vrai. Il y a un peu de moi. Dans tous les personnages, il doit y avoir un petit peu de moi, c'est normal. C'est normal.
Bah, ça dépend, parce que quand on revoit, par exemple, 8,5, où vous avez les cheveux très courts, où vous êtes habillé de manière fort sévère, et vous avez des lunettes, je dirais pas d'institutrice, mais enfin. Des lunettes qui mettent pas forcément en exergue et en beauté votre visage.
Oh, peut-être que j'ai eu un petit passage comme ça dans ma vie, qui sait, j'en sais rien. Peut-être, il y a eu un petit moment. Non, mais là, on parle de Fellini comme metteur en scène. Avec Fellini, on pouvait devenir n'importe qui et n'importe quoi. Hein. C'était un magicien. Non ?
Mais en tout cas, il a capté de vous des personnalités différentes. Parce que quand on voit 8,5 ou quand on voit la Dolce Vita, ou plutôt d'abord la Dolce Vita et 8,5, on se dit que ce n'est pas la même personne. Mais vraiment.
C'est une actrice. Non, c'est une actrice. C'est difficile. Moi, j'ai du mal de parler de moi. Je ne sais pas très bien, mais avec Fellini, c'était formidable. Il nous prenait la main, il nous emmenait où il voulait. C'était formidable avec Marcello. Nous étions très liés tous les trois. Vraiment, on est. Fellini disait toujours c'est comme notre petite cousine de province, je me souviens de ça. On était très liés, on riait beaucoup. Il y avait un grand rapport tous les trois. Quelle merveille! J'ai vécu des choses merveilleuses, vous vous rendez compte? De me promener avec Fellini et Mastroianni.
Dans Cinecittà.
Oui, comme ça, dans la vie. C'était formidable et ça a duré des années. Et quelle chance j'ai eue! C'est extraordinaire, non? C'est un rêve.
Alors, quelle est la part de votre vie qui ne se passe pas sur les plateaux? Est-ce qu'elle est plus importante que celle qui se passe pendant les tournages?
Non, c'est ma vie. Le tout, c'est un tout. Ma vie est évidemment importante, mais mon travail, c'est un travail, c'est tout ce qu'on veut.
Est-ce que c'est un travail? Parce que vous n'avez pas choisi du tout.
Non, je n'ai pas choisi. On l'a choisi pour moi, oui. Puisque j'avais 14 ans quand on m'a demandé la première fois. C'est la vie qu'il a choisie pour moi. Bon, j'ai suivi.
Mais vous étiez d'un milieu de comédien.
Oui, mais je ne connaissais pas du tout. Parce que comme je ne vivais pas avec mes parents, je ne connaissais pas du tout le...
Et pourquoi vous ne viviez pas avec vos parents?
Parce que mes parents s'étaient séparés, comme beaucoup d'enfants, quoi. Et je vivais avec mes grands-parents.
Donc, dans la rue, une jeune fille marche. Elle est remarquée.
Jeune fille, j'avais 14 ans. Hein.
Une adolescente.
Très adolescente.
Pas une petite fille.
Rue du Colisée. J'étais avec ma maman. Et on sort d'un film. Je crois que c'était l'assurance sur la mort, je me souviens. Avec, je crois, Barbara Stanwyck. Je me souviens de ça. Et un monsieur, il connaissait maman. Il lui dit bonjour, il parle. Et il se retourne vers moi. Et il me dit, vous voulez faire du cinéma? Vraiment, hein, comme ça. Et je regarde maman, moi, je ne vais pas faire du cinéma, je vais être danseuse. D'ailleurs, je répète la même chose, évidemment, je vais être danseuse le soir et pharmacienne le jour. Vous voyez, je n'étais pas jeune. J'étais pas vieille.
Vous aviez des idées arrêtées déjà.
Oui, j'étais très jeune, c'est justement, je ne dis pas jeune.
Et pourquoi pharmacienne? Danseuse, toutes
savoir,
les petites filles veulent l'être.
Allez savoir pourquoi je voulais soigner. Je suppose, je ne sais pas. Parce que je voulais être chirurgienne, et puis un jour, j'ai vu à la télévision, je ne sais pas, une opération, je dis non, je ne serai pas chirurgienne, pharmacienne, c'était beaucoup mieux, c'était bon, je ne sais rien. Écoutez, je vous dis, 13-14 ans. Hein. Et voilà, et il a dit, vous voulez faire du cinéma, j'ai regardé ma maman, elle m'a dit, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux? Je fais, bon oui, mais enfin voilà. Mais c'est tout, c'était...
Et elle vous a chaperonné pendant les tournages?
Un petit peu, oui. Un petit peu. Oui, oui, un petit peu.
Et très vite, ce nom et ce prénom
non. Alors, Anouk,
ont été choisis
oui, non.
Pour vous.
Oui, c'est-à-dire
vous
Anouk...
Vous ne vous appelez ni Anouk ni Aimé.
Non, non. Je m'appelle Françoise Dreyfus, normalement. Et non, ce qu'il y a eu... Anouk, c'était le nom du personnage du premier film que j'ai fait, qui était La Maison sous la mer. Alors, évidemment, étant une gosse, les gens ne m'ont pas appelé par mon nom, m'appelaient Anouk, fais ceci, fais cela. Bon, donc on dit, tiens, tu devrais garder Anouk. Et puis, je suis allée faire des essais pour un film de Marcel Carné, qui était La Fleur de l'âge. Et le scénariste, c'était Jacques Prévert. Et nous sommes partis, donc, tourner à Belle-Île-en-Mer. Et un jour, Jacques m'a dit, tu peux pas t'appeler Anouk tout court quand tu auras 40 ans. D'abord, 40 ans, c'était tellement vieux, je voulais même pas y penser. Et puis, dans le film, il y avait Arletty. Je dis, elle s'appelle bien Arletty tout court. Pourquoi moi, je pourrais pas m'appeler Anouk? Et il est arrivé un jour, il m'a dit, tu vas t'appeler Aimé. Et je me souviens, il avait dit, il y a 5 lettres. Il m'avait fait remarquer ça dans Anouk et dans Aimé. Tu vas t'appeler Anouk Aimé. Je vais vous dire, quand on a 15 ans, j'ai à peine 15 ans là, j'ai eu mes 15 ans là-bas, et que Jacques Prévert vous donne un nom, hein, que ce soit n'importe quoi, vous le gardez. Même si ça n'avait pas été Aimé. Et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé.
Et aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes Anouk Aimé et que Françoise Dreyfus oui. est oubliée?
Ah non, on n'oublie pas Françoise Dreyfus. Ça ne s'oublie pas. Non, je suis tout ça. C'est ce qui fait de moi que je suis internationale comme ça.
Et quand vous étiez très jeune sur les plateaux, en train de tourner avec les grands metteurs en scène, malgré votre jeune âge, vous étiez considérée? Ou considérée comme une petite gamine?
Vous savez, j'ai pas beaucoup tourné très jeune, en fin de compte. J'ai fait La Fleur de l'âge, et puis le film s'est arrêté, on n'a pas eu assez d'argent. Et je suis partie finir mes classes en Angleterre. Bon, après, j'ai commencé à tourner déjà, j'avais 15 ans, 16 ans, oui. Et j'ai pas fait beaucoup de choses. Je sais pas, on m'a toujours bien traitée, mais j'ai pas pensé si on me considérait ou pas, non.
Mais vous avez pas pensé que vous n'alliez pas quitter ce milieu? C'était pas votre décision, mais c'est devenu une vocation très vite?
J'étais là, j'ai laissé les choses faire, c'est vrai. J'ai laissé les choses faire, j'avais pas une passion. J'étais bien. Je vais vous dire, sincèrement, j'ai commencé à aimer ce métier quand j'ai rencontré Fellini. Avant, j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables comme Julien Duvivier, comme Jacques Becq, Carnet d'abord avant, mais comme on parle d'après un peu, de Duvivier qui voulait absolument que je fasse le rôle, vous vous rendez compte. Et il avait une réputation d'homme assez difficile, avec moi c'était un ange. Jacques Becker qui m'a donné le rôle de Modigliani, enfin de Jeannet Buterne dans le film de Modigliani. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance, mais je trouvais qu'en France, on était sévère, fallait pas faire de bruit, fallait être sérieux. Si on riait avant de jouer, c'était pas bien. C'était évidemment, tout le monde me donnait des conseils. Si tu veux être actrice, faut pas faire ça, faut pas rire, faut pas ceci, faut ça. Et à la limite, je trouvais ça. Hein. Et quand je suis arrivée en Italie, quand j'ai rencontré Federico et qu'on a tourné, d'abord j'ai rencontré chez mon agent, je me souviens. Tout le monde était très impressionné par lui. Il avait fait La Strada. Mais moi, je n'étais pas tellement. Alors, je suis arrivée. Mais dès qu'il m'a regardée, il m'a séduite. Il avait les yeux. Il avait une façon de vous regarder. Pardon de dire ça, ce n'est pas très simple. Mais comme Picasso, quand j'ai rencontré Picasso, regardait. C'est-à-dire, c'était des yeux qui perçaient, qui voyaient derrière. Qui ne voyaient pas seulement votre visage, mais qui voyaient quelque chose derrière. Et ça, je me souviens, quand j'ai rencontré Picasso, c'était avec Jacques Prévert, c'était à Valoris. La façon dont il regardait, c'était impressionnant. Des yeux fixes comme ça. Et Federico avait le même regard quand il m'a rencontré. Et il m'a dit, vous voulez faire ce film? J'ai dit oui, il me dit, vous le ferez. Bon, c'était fini. Mais comme
vous ne deviez pas être la seule prétendante.
Attendez, il y avait 200 filles qu'il avait vues partout en Angleterre, partout il avait vu. Je dis bon, je ne ferai pas. Et puis, j'ai reçu un télégramme. À l'époque, il y avait des télégrammes d'arriver à Rome. Je suis arrivée à Rome. Et puis, j'ai rencontré Marcello. Puis, je suis venue voir tourner. Et puis, la première scène, c'était Via Veneto, dans la Cadillac. Alors, je ne vous dis pas ce que c'était de conduire à cette époque-là, Via Veneto, dans une Cadillac avec tout le monde, les paparazzi et tout. J'ai dit, moi, je ne comprends rien. Ça criait dans tous les sens. Et va vivre. Je lui ai dit, mais moi, attends, moi, je comprends rien. Et Fellini a dû s'en rendre compte. Et le lendemain, c'était un magicien. J'avais tout compris. J'étais rentrée dans son monde et je me suis dit, bon, alors j'aime bien être actrice, si c'est comme ça. On ne se prend pas au sérieux. On est heureux de faire ça, on rigole. C'est pas parce qu'on rit qu'on est en dehors du personnage. Ça me plaît. Ah ouais, je veux bien être actrice. Et là, vraiment, j'ai eu le sentiment de dire, bon, alors, je suis actrice, alors, si c'est comme ça. Si on ne se prend pas au sérieux. On fait ce métier sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux. Et là, j'ai dit, oui, d'accord, je suis actrice.
Quel type d'indication vous a donné Fellini?
Il donnait des indications différentes aux acteurs. Je dirais que Marcello et moi, ils nous dirigeaient un peu pareil. C'est-à-dire que Pierre, quelquefois, il prenait pas beaucoup de temps avec nous. Vous allez là, pourquoi vous allez là? Je sais pas comment vous dire.
Et il y a des... Il improvisait au fur et à mesure du tournage.
Pas toujours. Mais par exemple, avec des acteurs, ils pouvaient être d'une patience. Mais vous pouvez pas savoir. Et puis nous, tout d'un coup, on se trompe, ils nous engueulaient. Mais il avait raison. Je sais pas, un jour, on a fait je sais pas combien de prises. Et il disait, mais de toute façon, il disait à l'acteur, j'ai le temps, je suis pas sûre que je veux faire la scène ce soir. On n'en pouvait plus, on l'a fait au moins 30 fois. On disait, mais il avait raison. Il disait, j'ai le temps. Et il a eu ce qu'il a voulu avec cet acteur. À part ça, avec un autre acteur, au bout de 3 fois, il l'engueulait. Mais il avait raison. Celui-là, il fallait l'engueuler. Et c'était Fellini, quoi. Je vous dis, chaque personne est dirigée d'une façon différente. Chaque personne, il a une passion. Mais pourquoi il est patient comme ça? Il arrivait à avoir ce qu'il voulait. Cette personne, il fallait être très, très doux, très, voilà. Une autre, voilà.
Mais vous donnez des indications sur, générales, sur la trame du film.
Ça dépend à qui.
Vous saviez où vous alliez?
Oui,
parce
non.
Que dans la Dolce Vita, on a l'impression que par moment, c'est une sorte d'improvisation, vacabondage poétique,
oui, mais
sensuel.
C'était la Dolce Vita.
C'était la Dolce
voilà.
Vita.
Donc, on traînait. Dans 8 et demi, on ne traîne pas. Non?
Ah, ben vous n'êtes pas la même.
Voilà, mais on ne traîne pas. On traînait. C'était Via Veneto, on traînait, les paparazzi.
Vous voulez dire que la vie et le cinéma, et ce qui se passait sur le plateau du film, ressemblaient à la vie après le tournage? Il y avait comme une porosité.
C'était pas... Oui, oui et non, parce que c'était... Je vous dis, comme on ne se prenait pas au sérieux, on ne rentrait pas dans ce genre de choses, mais on vivait d'une autre façon. On traînait... mot qui disparaît aujourd'hui, on ne traîne plus maintenant, on ne rêve plus, on est sur son téléphone toute la journée. Mais cette époque-là, on traînait, on rêvait, et ça c'était en plein la Dolce Vita. Dans 8 et demi, on était pareil, mais on prenait quand même le personnage un peu différent, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand même, c'est un film de Fellini, il y avait quand même une espèce d'atmosphère... italienne, non? Même dans 8 et demi, vous voyez ce que je veux dire? C'était quand même pas sévère, non?
Quand avez-vous découvert ces deux films? Vous aviez une idée générale tournage?
Non,
vous
moi,
avez été très, très étonnée au moment
non,
où vous avez
vu les... Non, je me suis laissée aller, Oui, je vous dis, le premier jour, quand j'ai tourné Via Veneto, dans cette Cadillac, ça cure les... Moi, je dis, je comprends rien, moi, je m'en vais demain, je sais pas... Et puis, je vous dis, Fellini, il a dû sentir que j'étais paniquée. Je sais pas, je suis rentrée dedans. C'était un magicien, Fellini. Je suis rentrée dans le groupe et puis c'est fini. J'en suis jamais ressortie. Même s'il n'est pas là, pour moi, c'était une aventure extraordinaire. C'était une promenade, une longue promenade dans ma vie qui est extraordinaire, qui ne s'est pas arrêtée.
Vous avez décidé de vivre en Italie?
Oui. Alors là, parce que comme j'ai beaucoup de propositions et puis que j'ai une fille, il fallait qu'elle aille à l'école, je voulais pas être séparée d'elle, donc je suis venue vivre en Italie, il fallait rester au même endroit, quoi, vous comprenez, comme je travaillais plus là-bas. Je suis revenue pour un homme et une femme.
Et donc vous avez eu l'impression que après avoir été immortalisée par Fellini, après c'était le passeport, tout le monde vous voulait.
Oh, oui.
Anouk qui était ô combien aimée.
Non,
et désirée.
Oui, non, c'est parce que, oui, je sais pas. Je voulais parce que j'allais tourner avec Fellini, peut-être. Je sais pas.
Ça vous a pas tourné la tête?
Non.
Vous êtes une femme sérieuse?
Je ne sais pas si je suis une femme sérieuse, mais.
Vous n'êtes pas tombée dans les travers
gâtée.
De la célébrité.
Non, mais non, justement, c'est ce que m'a appris Fellini. C'est pas se prendre au sérieux. Vous voyez ce que je dis? C'est ça qu'il y avait de formidable avec Federico. Federico, il ne pouvait être insupportable que quand les gens ne le comprenaient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand les gens étaient à côté. Mais il était d'une grande simplicité. Ah non, ça... Je vous dis, quand je l'ai rencontré, le déclic, ça a été C'est pas parce que tout d'un coup, on tousse, on fait une scène ou qu'on a ri que c'est... Que c'est pas, on n'est pas acteur, on ne joue pas, on n'est pas dans le personnage. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut être sérieux.
Vous êtes déjà dans un personnage, parce que là, vous venez d'utiliser au moins 3 voix en l'espace d'un quart de seconde.
J'ai mal à la gorge. Non, mais ma gorge est mieux, vous verrez après, ça va être mieux sans mieux. Non, mais je veux dire, c'est ça, Fellini, c'est pas se prendre au sérieux. Travailler bien. Être très sérieuse. Et c'est ça qui m'a appris. C'est là où je vous dis, alors ça me plaît d'être actrice comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, se prendre au sérieux?
Qu'est-ce que ça veut dire, être actrice?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas?
Non.
Et vous ne voulez pas le savoir?
J'ai pas mal vécu comme ça jusqu'à présent. J'ai mieux de continuer, il ne faut mieux pas changer.
Comme si vous vouliez vous protéger?
Non. Non, il y a une chose qui m'étonne aujourd'hui, c'est quand quand on était plus jeunes, vous savez, on se renseignait dans le cinéma de ce qu'il y avait avant. Les jeunes, aujourd'hui, ils ne se renseignent au-dessus de 10 ans, ils ne savent rien. Je veux pas être drop name, comme on dit, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Woody Allen. Il y a un an ou deux, je ne sais pas, on parlait. Et il me dit, Anouk, c'est effrayant. Je fais des conférences à des étudiants de cinéma. Attention, je spécifie bien cinéma. On parle de Fellini. Oui, ça leur dit quelque chose. Pasolini, ils ne savent pas qui c'est. Et il dit, nous, notre génération, on savait qui étaient les Marx Brothers, qui étaient W.C. Field, Mae West. Et ce n'était pas notre génération, ni celle de nos parents, c'était celle de nos grands-parents. Ce n'était pas celle de mes parents, moi. Hein. Mais là, maintenant, c'est fini. On ne sait pas. Et c'est incroyable, non?
Il y a plein de jeunes qui vont découvrir des films, soit par les DVD, soit parce qu'ils vont à la cinémathèque, soit parce qu'ils ont un amour immodéré des films anciens.
Oui, il y en a quelques-uns, mais en général, vous parlez à des gens, ils ne savent pas. L'autre jour, je parlais à un garçon très intéressant et tout, qui était un peu dans... les Marx Brothers, je ne sais pas qui c'est. Enfin, je ne sais pas, moi, écoutez.
Et vous avez vu beaucoup de films quand vous étiez petite, avec vos grands-parents?
Non, avec mes grands-parents, j'étais trop petite, là, non. Et puis, il n'y avait pas la télé, d'ailleurs. Ah, je n'ai pas vu beaucoup de films. J'allais de temps en temps, parce que j'habitais rue Rochechouart, il y avait un cinéma en bas qui s'appelait le Roxy. Et j'allais au cinéma. Mais enfin, je n'étais pas une folle, moi. Non, c'est après que quand j'ai commencé, parce que j'étais aussi dans un cours de diction, dès que j'ai commencé à faire du cinéma, chez Boer-Terrand, où les grands, c'était Cazares et Michel Piccoli, je me souviens. Et donc, non, j'ai vu les films. À partir de ce moment-là, vers 14-15, j'ai vu plein de films. J'allais promener les chiens, et j'avais une grande cape vers... 14 ans. J'ai une grande cape et maman me disait d'aller promener les deux chiens. Et j'avais un grand sac. Ce que je faisais, je mettais les deux chiens dans le sac et j'étais assez grande et sous la cape, j'allais au cinéma. Mais je voyais deux films dans l'après-midi. Ma mère me disait, t'as bien promené les chiens, c'est bien ça. Et ils étaient très mignons et j'étais très contente. J'ouvrais et hop, jusqu'un jour, il y a eu un chien
cinéphile.
Non, mais il y a eu un chien qui aboyait sur l'écran et mon chien aboyait, ça a été un drame. Bon, bref. Mais donc je voyais beaucoup de films là. Oh là là, le nombre de films que j'ai vu Léo d'Urlevent avec Laurence Olivier, je sais pas combien de fois, Le Diable au corps que j'ai vu, je sais pas combien de fois. Oh, j'étais une passionnée de tous les films là. J'en voyais beaucoup.
Est-ce que cette expérience et cet amour du cinéma vous a nourri ensuite dans votre art de l'interprétation?
Oh, je suppose que de voir des films, ça m'a appris beaucoup, hein, ça certainement. Et puis les gens que j'aimais, oui, certainement, ça m'a appris. Mais moi, je ne me suis jamais beaucoup... Comment je suis plus instinctive que comme actrice. Hein. Faut dire, on arrive à mon âge, j'arrive à savoir un peu qui je suis quand même. Je suis plutôt une actrice instinctive que calculée, enfin, je veux dire. Là, j'ai joué avec Gérard Depardieu, Love Letters, et je
Que vous jouez depuis très longtemps avec différents partenaires. Ça, c'est une expérience absolument incroyable.
Oui, j'ai eu beaucoup d'hommes. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a un mois, j'étais la seule femme qui l'avait fait. Mais donc, avec Gérard, les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il y a entre vous? Et je crois qu'on est tous les deux des acteurs instinctifs. Et c'est ça.
Vous n'avez pas appris?
Non, j'ai appris, oui, puisque après, j'ai appris quand même un peu comment parler. Mais pas vraiment, je ne sais pas. J'ai appris en regardant. Vous savez, je crois qu'être actrice ou acteur, on apprend en regardant les autres vivre. De voir les gens, moi, ça m'a fascinée. Dans les cafés, les trucs, voir les gens, qu'est-ce qui se passe, quelle est leur histoire, qu'est-ce qui se raconte. Moi, on apprend ça, les gestes des gens. Moi, j'ai piqué de ce que j'ai regardé dans la rue.
Encore aujourd'hui? Vous passez votre temps à regarder les gens?
Je passe mon temps, non, mais parce qu'ils se répètent un peu, donc, maintenant. Mais c'est vrai il faut apprendre à parler, à sa diction, sa voix, et se tenir. Parce qu'on ne se sert pas de notre corps en France. C'est une chose que les Américains font beaucoup mieux que nous. Ils se servent de leur corps. Ici, vous voyez ce que je dis?
On a un peu honte.
Non, je ne sais pas si on a honte, mais c'est une chose qu'on n'apprend pas. De savoir se déplacer, vous voyez ce que je veux dire? On l'apprend pas. Enfin, peut-être aujourd'hui on l'apprend, je ne sais pas, dans les cours, mais c'est pas des choses. Et ça, c'est important, de se servir du corps. La voix, on doit avoir une bonne diction, parce que beaucoup de gens, ils n'en ont pas. Hein, et ça, c'est important d'aller dans un cours pour apprendre.
Et le corps aussi, ça s'apprend.
Oui, ça s'apprend, mais je trouve. Peut-être maintenant on l'apprend, mais moi, à mon époque, on l'apprenait pas du tout. Les Américains, oui. Mais ça, c'est très important. Mais
pourquoi vous n'avez jamais joué aux États-Unis? Vous avez eu de multiples propositions.
Non, mais si, j'ai fait des films. Mais ce que je voulais dire, apprendre, c'est voir les gens vivre, les expressions. Moi, souvent, j'ai copié même impudiquement des gens qui étaient. Je voyais bien qu'il y avait un drame, je m'en suis servi après, des gestes. C'est des choses. Si aux États-Unis, c'est-à-dire que j'ai fait un film avec Sidney Lumet, c'est en Italie, mais c'était un film américain, et Omar Sharif, qui s'appelait The Appointment. Après, j'ai fait Justine, avec George Cukor et Joseph Strick. Il y avait deux metteurs en scène. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, Prêt-à-porter, c'était à Paris, c'était une production américaine quand même. Et puis, bon, j'ai fait Model Shop en Amérique, mais même si c'était Jacques Demy, on l'a tourné à Los Angeles. Puis il y a d'autres choses, bon. Ah.
Vous auriez pu partir aux États-Unis et avoir une carrière américaine. Or, vous avez préféré l'Italie pendant pas mal de temps.
Oui.
Et puis, on a l'impression que vous viviez plus que vous ne cherchiez à continuer votre carrière. Il y a eu des pauses.
Ah oui, mais moi, j'ai jamais fait carrière. J'ai jamais fait carrière. Jamais pensé à ma carrière, non. Non. J'ai laissé les choses venir à moi. Ouais, c'est vrai. Mais l'Italie, après avoir rencontré... Vous vous rendez compte qu'en Italie, moi, de tourner avec Fellini, avec De Sica, avec tous ces gens, je pouvais... Oui. Et quand j'étais en Amérique, j'ai la chance avec Lumet, c'était un homme formidable. Non, moi, il y a des choses que j'ai peut-être pas faites, mais oui, mais j'ai pas décidé, vous savez. Tant que ma fille était encore jeune, je me suis fixée en Italie pour qu'elle soit dans une école. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça aurait pu. Bon, après, j'ai été à Londres, vivre à Londres.
Donc pas d'itinéraire décidé, planifié?
Non.
On a l'impression que c'est un peu le hasard. Et d'ailleurs, je crois que c'est le hasard aussi qui a joué au moment de l'histoire d'un homme et d'une femme.
Ah oui, j'étais en Italie à ce moment-là. Et je suis très amie avec Nadine Trintignant. On s'est connus, nous étions très, très, très jeunes. Enfin, j'ai connu toute la famille et tout. Et Jean-Louis, j'étais témoin à leur mariage. J'étais témoin de Nadine quand elle s'est mariée avec Jean-Louis. Il m'appelle, il me dit, écoute, il y a un jeune metteur en scène qui veut nous voir. Bon, alors je suis venue à Paris, et le jeune metteur en scène, c'était Claude Lelouch, qui nous a raconté le film, et il a dit, vous aimez? Vous voulez le faire? On a dit oui. Il a dit, bon, ben, on va le faire. Voilà. Et voilà. Et c'est devenu un homme et une femme.
Mais ça a été plus compliqué que ça au début, non?
Ah bah oui, non, ce qui s'est passé... Non, alors on est parti. On est parti pour Deauville. Et Claude allait très, très vite.
Trop vite.
Alors, on a commencé à s'engueuler. En plus, il y avait Jean-Louis derrière qui adorait aller vite parce qu'il faisait des courses.
Hein? Ah ben, c'est un coureur automobile, Trintignant.
Alors, moi, j'allais...
Professionnel.
Et on était très fouchés, donc on était dans la voiture. Hein, on avait... J'ai... Vous voulez aller un peu moins vite, s'il vous plaît? Il me disait, mais non, je vais pas vite. Enfin, les trucs qu'on a, il avait 20, 27 ans, les trucs qu'on a, mais je vais pas vite, mais il n'y a plus d'accident. Écoutez-moi, on commence à s'engueuler. Bon, ça se calme, on arrive à Deauville et on mange tous. On était 13 en tout. Toute l'équipe, c'était, nous étions 13, les machinistes et tout. Bon. Et puis tout d'un coup, il y avait une mer mauvaise comme il peut y avoir à Deauville. Alors je regarde bêtement la mer, je fais, ah, la scène du bateau, ce ne sera pas cette mer. Hein. Et il me dit, ah si, moi j'ai besoin de cette mer. Ah, je dis, ah bon, mais on sera peut-être près de la côte. Ah non, non, parce qu'il faut que je puisse tourner la caméra et... Et vraiment, il faut... Ah ben, il y aura peut-être un bateau à côté pour si ça va mal. Non, non, c'est pas mon cinéma, moi. Je dis, bon, ben, votre cinéma à vous, vous le ferez sans moi. Parce que moi, je dois vous respecter si je vous dis que je suis malade. Vraiment, j'étais pas malade, j'avais peur. Mais malade, ça, c'est mieux de dire ça. Que si vous dites que vous avez peur, les gens ne vous écoutent pas. Si vous dites que vous êtes malade, bon, là. Ben non, il n'a pas eu... Il m'a dit, non, 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 c'est pas mon cinéma. Ah, je dis, c'est pas votre cinéma à vous, ben, vous le faites sans moi. Je rentre à l'hôtel. Nous rentrons à l'hôtel. Jean-Louis n'est pas content avec moi. Enfin bon, je sais qu'il appelle. Il appelle pour trouver une actrice. Et mon agent, c'était Gérard Lebovici. Alors, il paraît qu'il lui a dit ça. C'est Claude qui me l'a dit après. Il a dit, je me suis disputé avec Anouk. Alors, Gérard dit, mais on ne se dispute pas avec Anouk. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si, 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 bon, bref. Trouve aucune actrice. Le lendemain, moi, très comme ça, je suis là si vous avez besoin de moi, pour ne pas vous laisser tomber, puisqu'on n'avait personne, puisque vous n'avez trouvé personne, je suis là. Et on fait la scène, je me souviens, de la petite fille, avec ma fille, quoi, justement, qui fait tomber une pancarte, je me souviens, un moment. Et je commence la scène, et c'est l'idylle. C'était merveilleux, c'était, on se comprenait, on s'adorait. Moi, je ne voulais plus rien lui demander pour pas le vexer. Ça a été formidable, quoi. Alors, il raconte d'ailleurs, vous savez, justement dans Empreinte, que quand il me lisait le scénario le soir, je m'endormais. Vous n'avez pas vu dans Empreinte? Il m'a dit, elle s'endormait. Non, ça a été extraordinaire, ça a été une aventure... sublime, quoi, vraiment. Je me souviens, quand nous avons tourné en Camargue, nous sommes montés à cheval, et au déjeuner, il me dit, on descend. Et moi, je n'étais pas montée à cheval depuis des années. Je dis, si je descends, je ne peux plus remonter. Parce que, vous savez, je n'avais pas fait de cheval depuis très longtemps. Je ne voulais plus le contrarier. Je ne voulais plus me dire, mais je ne pourrais pas monter. Non, je voulais lui dire oui à tout. Parce que... Claude, vous voyez, c'est ma famille. Comme je dis toujours...
Vous avez continué à travailler
toujours,
avec lui.
Mais oui.
Et
mais...
vous jouez dans pratiquement tous ses films.
Ah oui, parce qu'à la fois, il me demande de venir. Je n'ai pas le droit de refuser. Non, mais c'est ma famille. Je dis toujours, ma famille...
Ça existe, les familles au cinéma?
Moi, oui. Moi, je veux dire, ma famille... Alors, je dis toujours, bon, du côté de ma mère, c'est Claude. Du côté de mon père, c'est Fellini. C'est ma famille, les deux. Ce sont deux piliers pour moi, non? Dans ma vie. Alors... Il y a Lola aussi.
Alors, on parlait du corps tout à l'heure, d'apprentissage de son corps dans l'espace. Est-ce que vous saviez que vous aviez ce corps-là, que vous avez ce corps-là, que vous saviez danser, que vous saviez séduire, tout en étant jamais dans un processus d'aguicheuse?
Si vous me dites ça, moi, je ne vais pas dire non maintenant.
Vous l'avez appris ?
J'aime bien ce que vous dites là. J'ai appris... non, j'ai dû l'apprendre avant. Bon, le fait que je voulais être danseuse, peut-être. Et puis, j'ai peut-être voulu copier un peu ce que j'avais vu dans les films américains. Mais voilà... Vous savez, je n'ai pas de rentrée. C'est l'instinct, moi, qui m'a toujours un peu... Enfin, je répète la même chose, mais c'est vrai.
C'est la présence aussi. C'est l'élégance.
Ben ça,
c'est l'économie de gestes.
J'ai bien fait de venir. Merci.
Non, mais est-ce que c'était non. très répété? Est-ce que c'est venu très vite?
Je crois que c'est... Lola, c'est vrai qu'il y avait une partie de moi qui était Lola, et puis... Et Osée, c'était un personnage généreux. Elle était généreuse, Lola. Elle était
courageuse.
Courageuse, généreuse. Et toujours la même chose.
Digne.
Et puis, en même temps, ce côté, justement, qui passait d'une chose à l'autre. Ça, et puis, d'écouter aussi les autres. Je ne sais pas. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas très bien. Expliquer ces choses-là, c'est un peu comme raconter une histoire d'amour que vous avez vécue. On ne sait pas très bien. Ça s'est passé, ça a marché, ou ça n'a pas marché, mais c'est difficile d'expliquer. Dès le moment où on explique, c'est plus... Ça perd sa grandeur, ça perd sa dimension.
Mais est-ce que vous saviez que vous viviez une révolution formelle, par exemple, quand vous travaillez avec Fellini ou quand vous travaillez avec Demy, que quelque chose... cinéma s'inventer avec vous et
non,
grâce
pas,
à vous.
Non, j'aurais pas eu cette prétention. Tout ce que je sais, c'est que j'étais heureuse, c'est que j'étais bien, c'est que je rêvais, comme dans la chanson de Brel, je volais, je rêvais. Non, mais c'est vrai, j'étais en accord et puis tout ça, c'était généreux. Je crois que c'est tellement important, la générosité. Je ne dis pas de donner, de, vous voyez ce que je veux dire, mais...
Le partage.
D'avoir une dimension. D'avoir, voilà, le partage. Je ne sais pas, je n'ai jamais... puis rêver, puis traîner, enfin... Toutes les choses qu'on ne fait pas aujourd'hui, quoi. Mais c'est vrai, je ne pensais pas tellement là, comme ça. Là. Si on pense vraiment, quand on a des scènes très tristes, quelquefois, vous voyez, où il faut un peu se... un peu se concentrer, mais je sais pas, je sais pas vous dire. Si je savais tout ça, je l'aurais vendu. Non, c'est des choses qui viennent comme ça, je sais pas.
Donc les cinéastes, en fait, se sont beaucoup inspirés de vous, de votre capacité à gambader, à imaginer, à rêver, à vous ressourcer.
Ils ont su trouver ça surtout et le faire ressortir en moi. Sans eux, j'aurais peut-être pas... Vous savez, moi, j'ai fait des films parfois où c'était pas... Ce que le metteur en scène n'était pas aussi formidable. Bon, le rôle aussi. Mais c'était des rôles superbes que j'avais. Vous savez, attendez, Dolce Vita, 8,5, Un homme et une femme, Lola, tout ça, sont des rôles qu'on trouve pas beaucoup aujourd'hui. Ce sont des rôles extraordinaires, ce sont des personnages de femmes. Des femmes très féminines, des femmes... C'est vrai. Et des hommes qui savaient me mettre en valeur, vous voyez ce que je veux dire, de sortir ce qu'il y avait en moi. C'était des metteurs en scène quand même très exceptionnels. C'est ça, surtout, c'est le metteur en scène qui savait trouver en moi ce qui pouvait être intéressant ou pas. Enfin voilà, je les remercie eux. Hein.
À partir de quand vous avez su que vous étiez une actrice? Je ne sais pas si vous dites... Comédienne ou actrice?
Je sais pas, comme vous voulez.
Bah, vous êtes les deux.
Oui, oui, bon, d'accord. Ça dépend. Oui, comédienne, actrice, je sais pas, c'est comme vous voulez.
Mais au début, c'était le hasard. Ensuite, les rôles se sont enchaînés.
Puis
avec
voilà,
des grands
et puis c'est resté. Et puis voilà, et puis je m'y suis habituée. On s'est habitués l'une à l'autre. L'actrice et moi, voilà, et c'est ma vie. Ça fait partie de ma vie. Mais j'ai toujours eu... Oui, enfin oui. Je vous dis, jamais se prendre au sérieux, c'est ça. Alors, on s'entend bien.
Vous cohabitez bien.
Oui, ça va.
Mais est-ce que vous regardez vos films? Par exemple, on parle de Lola, il a été restauré récemment.
Oui, oui.
C'est
pas
une
beaucoup.
Merveille. Est-ce que vous en avez profité pour
le
revisionner?
Non, je l'ai fait parce que si j'étais invitée, je devais être là, je regarde, mais j'aime pas me regarder. J'ai jamais aimé me regarder, même quand je tournais le film, sauf pour m'aider. Par exemple, dans une scène, vous avez fait ça, il faudrait le faire un peu plus fort dans l'autre scène. Vous voyez, alors, en tant que travail, ça m'intéressait d'aller voir les roches. Mais de me voir, moi, non. Ce nombrilisme me déplaît. En plus, si vous avez raté le truc, c'est fini, c'est pour la vie. 40 ans après, vous allez dire, ah, elle arrive cette scène où je suis mauvaise, ça y est, elle arrive, ça y est, elle est là, elle est toujours là. C'est l'horreur. Bon, alors de temps en temps, j'ai de la tendresse pour certaines scènes qui arrivent, qui me rappellent des souvenirs. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais regardez-moi, non. Et puis en plus, on vieillit. Alors, pour toute femme, c'est pas drôle de vieillir, mais pour les actrices, c'est pire, parce qu'on a toujours les films qui nous rappellent ce qu'on a été. C'est beaucoup plus cruel, c'est vrai.
Mais on peut être encore plus beau en vieillissant. Et oui, encore plus belle.
Oui, oui, oui. Bon, on se dit ça, et c'est très bien pour le moral, mais enfin, faut être réaliste. Faut être réaliste quand même. Hein. Et c'est pas drôle. Mais nous, les actrices, on a toujours ça devant, hein, qui vous rappelle ce que vous avez été. Donc, se voir...
Et ça fait quel effet ?
D'avoir été ou d'être ?
Les deux, mon colonel.
Je vous parlerai après.
Ça doit être étrange.
Oui, c'est étrange, il paraît. Il paraît que c'est étrange, oui. C'est très étrange.
Oui, mais ce qui est incroyable avec vous, Anouk Aimée, c'est que... Bon, j'ai des images de vous... Beaucoup d'images, puisque j'ai revu certains de vos films pour préparer cet entretien, que vous êtes là en face de moi dans le studio et que c'est pareil, c'est le même visage, c'est les mêmes gestes, c'est les mêmes expressions, c'est le même regard. Donc on se dit que peut-être être actrice, c'est pas faire du cinéma dans le sens de l'expression la plus courante.
C'est peut-être aussi de la chance. Et puis... Oui, c'est de la chance, c'est de la chance. Mais oui, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, mais quand même, il y a des choses qu'on ressent. C'est pas drôle de vieillir. Les gens qui trouvent ça drôle, ils sont idiots ou hypocrites, l'un ou l'autre. C'est pas drôle, c'est pas vrai, non ? Oh, c'est extraordinaire de vieillir. Bon, non, que ça veut dire pas du tout. Je vous dis où ils sont idiots, où ils mentent. Je vois bien des choses, ça m'amuserait. Mais quelquefois, vous savez, quand on est habitué, on dit, bon, j'ai appelé, voilà, Anouk Aimée. Alors on disait, oui, madame Anouk Aimée, d'accord. Maintenant, quand j'appelle, on me fait, Anouk Aimée, quand vous écrivez Aimée, quel est le nom de famille ? Aimée ou Anouk ? Vous dites Anouk Aimée, mais quel est le nom de famille ? Je vous jure que c'est vrai. Alors, vous l'écrivez comment ? Ça m'énerve. Et pourquoi ça m'énerve ? Ils sont jeunes, ils savent pas. Mais ça m'énerve quand même. Parce que je dis, bon, d'accord. C'est très énervant, ça. Parce qu'on ne se rend pas compte. On a toujours été reçus dans un restaurant. Je dis toujours, quand vous avez un prix d'interprétation, qu'est-ce que ça change ? Ça change. Quand vous arrivez dans un endroit, ils vous donnent la meilleure table. Parce que ça ne change rien dans votre vie. C'est agréable d'avoir un prix d'interprétation, d'avoir été choisi comme la meilleure parmi plein de gens formidables. C'est pas que vous êtes la meilleure, si se trouve là, bon. Je me souviens toujours de Mohamed Ali. Cassius Clay. Un jour, quelqu'un lui disait, mais vous êtes le plus grand champion du monde. Et avec beaucoup d'humour, il dit, vous rendez compte ? Je suis l'homme le plus fort du monde. Il n'y a personne de plus fort que moi, même au fin fond de la Russie, même au fin fond. Et c'était drôle, et il rigolait avec ça. Et c'est vrai que ça veut dire, il se trouve que, bon, on est dans un groupe et tout d'un coup, on vous choisit. Vous faites déjà partie des meilleurs, c'est déjà bien, mais la meilleure, on n'est jamais. Mais c'est quand même embêtant quand on dit, appelez votre nom. Et alors, ça m'énerve. Si oui, Yannick, bon, ça fait rien, je rappellerai.
Eh ben nous, on va attendre demain soir.
D'accord, d'accord.
On se retrouvera demain.
D'accord, très bien.
Merci, Aimée Anouk. Non, pardon, Anouk Aimée.
Vous voulez que j'écrive ?
Vous venez d'entendre Anouk Aimée dans le premier des deux numéros de Hors Champ que lui consacrait Laure Adler en 2014 sur France Culture. À suivre.